Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche, animée par Marie-Christine et Jean-Paul de Vels. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
Aujourd'hui, il va être question de tempête, mais Jésus est là pour apaiser nos tempêtes.
La première lecture du jour sera dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, versets 14 à 17. L'amour du Christ nous étreint à cette pensée qu'un seul est mort pour tous et donc que tous sont morts. Et il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Aussi, désormais, ne connaissons-nous plus personne à la manière humaine. Si nous avons connu le Christ à la manière humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Aussi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé. Voici qu'une réalité nouvelle est là.
Et la deuxième lecture est dans l'Évangile de Marc, au chapitre 4, les versets 35 à 41. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait, et il y avait d'autres barques avec lui. Survient un grand tourbillon de vent. Les vagues se jetaient sur la barque au point que déjà la barque se remplissait. Et lui, à l'arrière, sur le coussin, dormait. Ils le réveillèrent et lui disent « Maître, cela ne te fait rien que nous périssions ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « « Silence, tais-toi !» Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Vous n'avez pas encore de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte, et ils se disaient entre eux, « Qui donc est-il pour que même le vent et la mer lui obéissent ?»
texte de Marc, indiqué par la liste des lectures bibliques pour ce dimanche, j'ai cherché une signification sur le thème de la peur et de la création. La tempête apaisée, dans l'évangile de Marc, c'est l'affirmation de la présence et de l'action divine au milieu des éléments naturels, des forces de mort et de vie, qui sont le contexte ordinaire ou extraordinaire de notre condition humaine. Les disciples sont seuls avec Jésus, engagés dans une aventure communautaire, et ils ont peur. Ils ont quitté la foule, il fait nuit. Dans leur barque avec Jésus, ils s'éloignent de la foule sur le lac. Ils sont coupés de la rive qui leur est familière, qu'ils connaissent bien, où ils ont l'habitude de vivre, qui est leur pays. Jésus leur propose l'aventure. Allons ailleurs. Passons sur l'autre rive. Allons vers des visages inconnus. Les voilà donc au milieu du lac, en route pour l'autre rive.
Ils se sont retirés pour un temps de passage, pour un temps de prière, pour faire le point, pour préparer l'avenir. Peut-être une étape nouvelle, peut-être pour un chemin nouveau. Jésus a voulu, avec ses disciples, passer sur l'autre rive, aller de l'autre côté de la mer, au pays des Géraséniens, chez les païens. Dans l'évangile de Marc, Jésus se déplace tout le temps. Il est toujours en mouvement, il ne veut jamais s'installer. C'est sa stratégie, peut-être aussi sa respiration spirituelle. La prière lui permet parfois de s'écarter d'un lieu, d'une assemblée, non pas, semble-t-il, pour éprouver les délices mystiques de la solitude, mais pour changer de direction, d'orientation, pour faire le point et aller ailleurs, plus loin. Mais la traversée du lac, cette nuit-là, pour Jésus, ce ne fut même pas un temps de prière, mais un temps de repos, le sommeil. Il semble du reste qu'il est le seul à dormir. Les autres sont inquiets, sans doute, et ne trouvent pas le sommeil. Mais Jésus dort.
Et je me dis que c'est devenu un tel problème dans la vie des hommes d'aujourd'hui, le sommeil, dans notre vie à nous. Les médecins et les pharmaciens prescrivent et vendent tellement de médicaments pour cela. Remarquez que peut-être les disciples sont tout simplement affairés. Ils ne peuvent pas se laisser aller au sommeil, ils font leur travail de matelot, ils surveillent la mer, et d'ailleurs, ça se gâte tout d'un coup, c'est la tempête. Pendant ce temps, Jésus dort. Il devait être fatigué, après l'enseignement qu'il venait de donner, les 4 paraboles, du semeur, de la lampe, de la semence et de la graine de moutarde. Jésus se repose. Il aura besoin d'autres forces bientôt, dans un pays nouveau, inconnu, au milieu des païens, où il rencontrera, et c'est le chapitre 5, le démoniaque qui avait en lui une légion d'esprits impurs. Jésus, pour l'instant, dort, inconscient, semble-t-il, de la tempête qui vient d'éclater et qui agite le bateau. L'évangile de ce matin est une histoire de tempête.
Notre vie aussi, parfois, est secouée par les tempêtes. Notre vie n'est pas toujours facile. Même si nous sommes dans la foi, même si nous sommes des disciples, des serviteurs de Dieu, des chrétiens, des responsables d'église. Notre vie n'est pas plus facile que celle de n'importe quel autre homme. Peut-être même quelquefois plus difficile encore. Nous connaissons l'inquiétude. Nous rencontrons la tempête. Nous sommes agressés, aussi violemment et plus violemment parfois que les autres. Jésus et ses disciples étaient engagés sur un chemin vers un pays nouveau, porté par la barque de l'Évangile vers des rencontres inconnues, vers une aventure nouvelle.
Et ce fut l'agression, la tempête. Pour que leur entreprise échoue, les démons de la mer attaquent. Survient un grand tourbillon de vent, les vagues se jetaient sur la barque au point que déjà la barque se remplissait. Il paraît que le lac de Tibériade connaît parfois des tempêtes et des tourbillons subites, quand il est pris entre les vents venus de la Méditerranée et ceux qui soufflent du désert syrien. Les démons attaquent. Les forces de mort veulent faire périr Jésus et les disciples. Elles veulent arrêter leur aventure d'évangélisation chez les païens. Elles veulent engloutir dans la mer déchaînée leur audace évangélisatrice. Maître, cela ne te fait rien que nous périssions ? Les disciples ont peur et se sentent en danger.
Ce texte de l'Évangile de Marc, au chapitre 4, nous parle donc de la peur, de la création, de la vie et de la mort. La mer, on le sait, signifie dans la Bible à la fois un chemin possible vers les autres, vers d'autres pays, mais aussi une menace de chaos, de désordre, de mort. Depuis les premières pages de la Genèse, où Dieu met de l'ordre dans la création en séparant les eaux, en mettant fin au tohu-bohu, en fixant les limites que les eaux ne devront pas dépasser, jusqu'au déluge qui apporte de nouveau la confusion en mélangeant les eaux du ciel et de la terre et en créant son œuvre de mort. Jusqu'au chapitre 38 du livre de Job, qui affirme que Dieu seul maîtrise la force destructrice de la mer, qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel, etc. Jusqu'à la tempête apaisée, dans l'évangile que nous avons lu tout à l'heure, et jusqu'à la vision de la Jérusalem céleste, dans l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, qui dit « Et la mer n'était plus ».
La mer dans la Bible et peut-être dans l'évangile de la tempête apaisée qui nous est proposé aujourd'hui est le symbole de ces forces hostiles qui nous inspirent cette peur ancestrale. Cette peur, nous avons peur. Dieu est-il vraiment créateur? Est-il vraiment le maître de la création, de sa création? Est-il vraiment le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, comme l'affirme le premier article de notre credo? La vie est-elle vraiment entre ses mains? La destinée humaine est-elle vraiment entre ses mains? Si la mort nous fait peur, n'est-ce pas surtout parce que la vie elle-même nous fait peur? Jésus parle au vent et à la mer, comme Dieu parle au tohu-bohu initial, pour créer le monde. Jésus parle au vent et à la mer comme s'il parlait à cette force de mort qui agresse sa création, qui agresse l'homme, à ce démon de la négation qui veut nier Dieu et la vie qu'il nous donne.
Jésus, réveillé, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. On pourra voir peut-être ici l'image de la résurrection de Jésus. Le mot même de réveiller sert quelquefois pour parler de Jésus ressuscité. Réveillé du sommeil de la mort, ressuscité, Jésus remporte la victoire. La mort est vaincue. Une nouvelle création commence, une nouvelle vie pour lui et en lui et par lui pour tous les hommes. Et nous pourrions mettre ici en parallèle un autre texte que nous connaissons bien et que nous avons lu tout à l'heure, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 17, et qu'on a donc écouté tout à l'heure. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et l'on pourrait aussi traduire par une nouvelle création.
Mais Jésus, dans cette histoire, ne se contente pas de sauver et de secourir ses disciples, il leur parle, il les interpelle. Après cette victoire sur la tempête, lorsque les forces de mort ont été maîtrisées, lorsque la mer a retrouvé le calme et redevenu une création de vie, cessant d'être un instrument de mort, Jésus n'en a pas encore fini avec ses disciples. Il leur parle de leur peur et de la foi. Pourquoi avez-vous si peur ? Vous n'avez pas encore de foi ? Ou comment n'avez-vous pas de foi ? Jésus, qui a d'abord rétabli la situation et créé ce grand calme, ne leur parle même pas du danger de mort auquel ils viennent tous d'échapper, et lui avec eux, mais de leur peur, comme si cette peur le préoccupait plus, en fin de compte, que ce risque de mort auquel ils viennent d'échapper.
Comme s'il y avait un lien terrible que nous percevons mal entre la mort et la peur. La mort engendre la peur, c'est évident. L'histoire de la tempête apaisée le montre et nous n'aurions pas besoin de cette histoire pour le savoir. Notre propre expérience suffit. La mort est notre terreur. La mort engendre la peur. Mais est-ce que, peut-être, la peur engendre la mort? Peut-être la peur nous fait-elle jouer le jeu de la mort, le jeu du démon, comme l'animal de proie qui hypnotise, immobilise, paralyse de peur sa victime pour la terrasser. L'évangile de ce jour nous interpelle tous. D'abord parce que c'est un émerveillement de voir Jésus capable de dormir pendant que la tempête fait rage. Il reste calme. Il est dans la paix de Dieu, dans la foi, c'est-à-dire dans la confiance en l'amour et en la fidélité de Dieu. Parce qu'il y a ce calme en lui, il va pouvoir réagir, affronter le danger, se réveiller et aussitôt lutter pour la vie, agresser l'agresseur démoniaque, le prendre à bras le corps. Il gronde et réprimande le vent, il rabroue le vent, traduit Chouraki. Silence, tais-toi, sois muselé. Traduit encore le même Chouraki.
Thank you.
cœur de la tempête, Jésus est passé ici de l'enseignement à l'action. Le disciple appelle et lui lance un défi. « Toi qui nous as si bien enseigné jusqu'ici, fais quelque chose, sauve-nous !» Il m'arrive, et à vous aussi sans doute, de recevoir ce genre d'appel de personnes en détresse. « Sauve-moi, aide-moi, j'ai peur de vivre, j'ai peur aussi de mourir. » Vous pasteurs, vous catéchètes, vous chrétiens, qui savez si bien enseigner, faites quelque chose. Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons, disent les disciples à Jésus. Jésus alors commença par le plus urgent, l'œuvre de salut, la lutte contre la tempête, contre les forces de mort. Il fit œuvre de résurrection. Il se réveilla et il rabroua le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi, sois muselé. »
Puis vint de nouveau le temps de l'enseignement, de l'interpellation. Jésus appela alors à nouveau ses disciples à la foi, à la confiance, à la victoire sur leur peur et sur leur angoisse. Chacun de nous est à la fois dans les situations de terreur où étaient les disciples et dans la situation d'évangéliste où était Jésus. Nous recevons des appels désespérés. Apportez-nous le secours, le salut de l'Évangile. Souciez-vous de nous, sauvez-nous. Vous voyez que nous périssons. Mais chacun de nous aussi connaît des moments où il est emporté lui-même dans le tourbillon de la tempête et où il connaît la peur. Jésus nous sauve, nous apaise, nous ressuscite. Jésus nous appelle à la foi qui surmonte nos peurs, puis il nous envoie vers nos frères en détresse. Nous devons vaincre nos peurs. Nous le pouvons parce que Jésus est avec nous, dans notre barque, dans notre vie. Nous devons vaincre notre peur, car il nous faut aller encore avec Jésus sur l'autre rive du lac, vers ce pays inconnu où l'Évangile doit être prêché et vécu comme une puissance de salut et de liberté. De l'autre côté du lac nous attend un homme possédé par le démon, comme au bas de la montagne de la Transfiguration attendait un enfant possédé par un esprit qui lui voulait du mal.
Recevons donc à nouveau cet appel de Jésus à la foi. Comment n'avez-vous pas de foi? Pourquoi êtes-vous si craintif? Nous dit Jésus. J'ai vaincu la mort, j'ai vaincu la tempête, la vraie, la grande tempête. Il y en aura encore bien d'autres des tempêtes sur le lac de Tibériade. Il y en aura encore bien d'autres dans nos vies. Mais la grande tempête a été apaisée une fois pour toutes. La mort a été engloutie dans la victoire. Les choses anciennes sont passées, dit Paul. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous éprouverons encore bien des peurs, cela est évident, cela est normal. Nous sommes des humains, nous sommes comme tous les hommes.
Mais Jésus veut nous libérer de la grande peur, de la peur de mourir, de la peur de vivre, de la peur du non-sens, de la peur qui nous paralyse et qui nous offre à la mort comme des victimes sans force, sans foi, sans espérance. Jésus veut nous libérer de cette grande peur. Chaque fois que nous éprouverons la peur, grande ou petite, chaque fois que nous serons pris dans la tourmente, dans une tempête plus ou moins menaçante, puissions-nous entendre la voix de celui qui apaisa un jour la tempête et qui dit à ses disciples « Pourquoi avez-vous si peur? Vous n'avez pas encore de foi ?» Réveillé ou ressuscité, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Amen. Cette émission se termine. Je vous dis au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt.